Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
La blague a fait le tour de la toile, enfin le tour de Twitter, le 7 avril dernier. C'est une photo d'Emmanuel Macron dans une salle de classe qui se penche avec bonhomie vers un petit garçon au premier rang. Le twitto imagine le dialogue imaginaire entre les deux. Le président demande au garçon, tout naturellement, ce qu'il veut faire plus tard dans la vie quand il sera grand. Et l'écolier répond « travailler dans le service public ». Une réponse qui fait réagir Emmanuel Macron. « Mais voyons, ça n'est pas possible, ça n'existera plus quand tu seras grand ». Une version alternative, suggérée par des contributeurs malicieux, propose également comme réponse « Mais voyons, tu veux réellement créer de la dette ?» On sourit ou pas devant la mise en scène humoristique d'une disparition annoncée, redoutée et peut-être fantasmée, celle de nos services publics. Il y a eu bien sûr France Télécom, entreprise publique depuis 114 ans, privatisée en 2005. Plus loin encore, qui se souvient de TF1, la Société Générale, la BNP, qui se souvient qu'elles étaient jusque dans les années 80 des organismes publics gérés par l'État. Plus près de nous, tout près même, c'était en mars de cette année, le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé qu'il préparait la privatisation d'Engie, des aéroports de Paris et de la Française des Jeux, qui pourrait même entrer en bourse. Le but, c'est de créer des liquidités et d'alimenter un fonds pour l'innovation. C'était une promesse de campagne du candidat Macron. On ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Mais ça n'est pas tout. Demain, en France, ce ne sont pas seulement les salariés des services publics, les cheminots, les profs, les postiers, les précaires de l'éducation nationale, les personnels hospitaliers qui protesteront contre les mesures prises tous azimuts par le gouvernement. Il y aura aussi des étudiants, des avocats, des électriciens, des employés de la grande distribution, des retraités et des salariés des EHPAD. Nous sommes allés les rencontrer en amont, comme on dit, la semaine dernière, lors d'actions de blocage, de petites manifestations qui convergeront demain. Nous leur avons demandé pourquoi ils étaient mécontents et leur avons aussi posé la question qui nous préoccupe aujourd'hui sur France Culture, à l'heure des réformes et des mobilisations sociales, que signifie le service public ? Dans Les Pieds sur Terre aujourd'hui, bribes de réponses instantanées avec Émilie Chaudet et Rémi Douate.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
On est sur l'esplanade des Invalides, autour de moi les manifestants, et à 100 mètres l'Assemblée nationale, on est séparé par un cordon de CRS, l'Assemblée nationale où se déroule l'examen du projet de loi de réforme de la SNCF. Donc il y a des cheminots qui sont venus là pour protester, il y a des cheminots, mais pas seulement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Parce que le combat des cheminots et de la SNCF, parallèlement, c'est le même qu'on a à l'assistance publique hôpitaux de Paris et dans les hôpitaux, là en l'occurrence, intra et extramuros.
Là, je vous vois, vous êtes en blouse blanche. Qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Alors moi, je suis infirmier anesthésiste à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Ça fait combien de temps que vous êtes infirmier ?
Alors moi, j'ai une particularité. J'ai commencé, je l'avais par terre dans les services. Après, j'ai fait aide-soignant, infirmier, et puis après, infirmier spécialisé. Donc je suis rentré en 85 dans les hôpitaux. Ouais, j'ai fait 25 ans d'infirmier et 15 ans d'anesthésie.
Et vous avez commencé par le ménage ?
Et j'ai commencé homme de ménage. Mais ça, c'est pareil, toute l'enveloppe budgétaire et tout le principe propre qui était cher à la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou hospitalière, on pouvait commencer. Moi, j'étais pas un bon élève à l'école. Voilà, le système éducatif et le système scolaire, je m'y plaisais pas. Donc je suis sorti très tôt de l'école, j'ai été obligé de reprendre des cours, et j'ai repris des cours par l'intérieur de la profession parce que mon employeur m'a permis de le faire. Et maintenant, je suis au niveau master.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut entrer homme de ménage à la PHP et en sortir infirmier anesthésiste 30 ans plus tard ? Aujourd'hui, c'est encore possible ?
Je pense pas.
Pourquoi ?
Je pense pas parce que les budgets formation ont complètement fondu comme neige au soleil. Et la problématique, c'est une perte d'effectifs qui va être majeure. Actuellement, à la PHP, on subit un véritable plan social qui est passé sous silence. Si je prends un exemple, ne serait-ce que faire un ratio, par exemple, avant, vous aviez un soignant pour 5-6 patients au regard de certains services. Là, c'est terminé. On va monter à des ratios de 8-10 pour les mêmes services et voir 40 à 50 patients pour certains services où c'est l'habitude. Ben, par exemple, en gérontologie, ben, vous avez un infirmier avec un aide-soignant pour 40-50 patients. Dans ces conditions, c'est très très difficile de faire des soins de qualité. Le problème, c'est que la personne et le professionnel qui rentre chez lui le soir en ayant ce désagréable sentiment de ne pas avoir fait son travail correctement, ben, il culpabilise. Actuellement, si je prends le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui est Martin Hirsch, il peut s'enorgueillir d'avoir le taux de suicide le plus élevé de tous les patrons, de tous les directeurs généraux qu'on a eu à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie problématique, parce que le problème, c'est qu'on va baisser l'offre de soins auprès de tous les usagers. Avec ce sentiment amer de rentrer chez soi en se disant bah, « j'ai pas fait une bonne journée parce que j'ai pas fait ce pourquoi je suis embauché, bah, l'essence même de mon métier, quoi ». Quand je prends en charge un patient lambda, que je le ramène une fois qu'il est sorti du bloc opératoire, bon, des fois il y a des complications au bloc opératoire, on le remonte dans les services de réa, donc ça c'est prévu, on arrive à avoir des places dans les services de réanimation, heureusement. Sauf que quand vous arrivez, vous avez un sous-effectif de personnel, on se dit, mais j'espère que c'est pas. Je voudrais pas que ce soit mon père, ma mère qui arrive là, alors que. Ils se donnent, mais à 300% de leurs moyens pour essayer de faire au mieux, mais on leur donne pas cette. Ils n'ont pas le chiffre qui fait qu'ils peuvent travailler dans les bonnes conditions. C'est ça le truc, c'est qu'on est en train de culpabiliser les professionnels de santé parce qu'on ne leur donne pas les moyens de s'exprimer professionnellement. Et après, on va nous dire, voyez, l'assistance publique, eh ben, elle ne marche pas bien, essayons de la privatisation. Sauf que derrière, il y a des consortiums privés qui n'attendent ça qu'avec des dollars à la place des yeux, et ils se frottent les mains. Et nous, on est en train de leur offrir sur un plateau d'argent. Ça, c'est voilà, les conséquences de la politique de Macron et la politique de Buzyn. Il faut arrêter. Je crois qu'ils sont dans leur monde, ils sont dans leur stratosphère, et ils se rendent même plus compte de ce que c'est que le vrai travail dans le service public, mais aussi dans les hôpitaux, chez les cheminots, à la SNCF, à la RATP, à la Poste. Donc voilà, regardez, là, je fais un exemple. Dès que vous êtes mandaté, dès que vous êtes délégué syndical et que vous êtes en souci, ben, la ministre du Travail donne l'ordre de licencier les délégués syndicaux. Je prends l'exemple de Gaël Quirante, qui vient d'avoir d'être licencié de la Poste. C'est une vraie atteinte du droit syndical, c'est une vraie atteinte du droit de grève, c'est à se demander si vraiment on est en démocratie. Et c'est vrai que l'héritage du Conseil national de la Résistance, et moi je me plais à citer Ambroise Croizat, j'ai plus de respect pour un Ambroise Croizat que pour un Emmanuel Macron.
Le créateur de la sécurité sociale.
Tout à fait.
Ils sont à vous, ces panneaux ? C'est quoi, c'est un cercueil ?
C'est un cercueil, effectivement.
Et il y a marqué fin de série aussi, c'est ça ?
C'est pour la justice, c'est tout ce qui reste de la justice. On solde. On termine ce qui reste et puis après on s'en va, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Il y a un manque de magistrats, donc des délais qui s'allongent à perte de vue. Et puis voilà, et les justiciables attendent. Comme il n'y a personne, et ben, les dossiers s'entassent. Et voilà, un service public qui ne fonctionne plus. Ça fait 30 ans que je suis avocat. Regardez, là, j'ai un rabat qui habituellement est blanc et aujourd'hui il est rouge. Et ça, c'est la couleur de ma colère. On fait disparaître les tribunaux d'instance. On en a déjà perdu beaucoup au moment de la réforme Dati. Malheureusement, ces tribunaux d'instance, qui sont vraiment des juridictions de proximité proches des citoyens, et dans nos campagnes, moi je viens de Chartres, on a déjà perdu celui de Nogent-le-Rotrou, celui de Châteaudun, il reste celui de Dreux, qui va devenir une annexe du tribunal de grande instance de Chartres. C'est la fin annoncée, à terme, la disparition. Pour être jugé, pour une conciliation, quelque chose, pour un litige minime, très souvent, ils y renoncent. Ils ne viennent même plus au tribunal parce que la distance est là et que c'est compliqué. Quand vous avez tout perdu, vous avez des accidents de la vie, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien, qu'il faut encore faire 40, 50, 100 km pour aller au tribunal parce que c'est vers cela qu'on va, ça ne peut pas aller. On met un fossé entre le juge et le justiciable.
Ça, c'est le barreau du 93. Il manque 40% du personnel. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui peut fonctionner avec 40% de personnel en moins ?
Dans le 93.
Dans le 93. Et cette justice-là, elle souffre, elle a besoin de moyens. Et ceux qui en payent les premiers les conséquences, ce sont les pauvres gens, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont déjà du mal à vivre. Les gens souffrent beaucoup plus qu'ailleurs en Seine-Saint-Denis. Et les avocats de Bobigny sont très sensibles au sort des plus défavorisés parce qu'au quotidien, c'est nous qui les assistons. Et là, on va éliminer encore plus ceux qui souffrent et leur interdire l'accès à la justice. C'est inadmissible pour le barreau de Seine-Saint-Denis. Ça ne concerne pas directement les avocats, ça concerne les juges, les magistrats, les greffiers qui n'ont plus, quelquefois plus de stylos, plus de papier. On a une justice qui est à bout et au lieu de l'aider en recrutant, on essaye d'éliminer les gens qui veulent aller confier leur sort à la justice. Je suis ici pour protester avec les confrères, avec les magistrats, contre le projet de loi de programmation justement de la justice. On veut rendre une justice par informatique, par ordinateur, avec de moins en moins la présence d'un juge et d'un justiciable, et encore moins d'un avocat. Par exemple, en passant par les fourches codines d'un intermédiaire qui va être géré par des sociétés privées, professionnelles, à but lucratif, qui analyseront la demande et grosso modo diront « vous avez une chance ou pas de chance d'aller jusqu'au bout ». Tout cela va forcément conditionner l'attribution de l'aide juridictionnelle pour les plus pauvres, voire le sort de la procédure. Mais surtout, est-ce que tous les justiciables sont en capacité d'expliquer leur dossier par Internet? Est-ce qu'ils sont en capacité de passer par une plateforme dématérialisée? Il y a déjà un point commun avec, par exemple, le mouvement des cheminots sur la forme. Le projet a été amené clé en main, bouclé, définitif, en disant « on a discuté avec vous, donc on s'est concerté ». Non, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas de ce qu'il y a dans le projet. En fait, c'est de la poudre aux yeux, et on essaye d'imposer quelque chose qui a été prédigéré, et on ne peut qu'intervenir qu'à la marge, et ça, c'est inadmissible.
C'est tous ensemble, on va gagner.
Je m'appelle Gaël Quirante.
Et vous avez quel âge?
J'ai 42 ans.
Ça fait combien de temps que vous travaillez à la
Poste? 15 ans, juste avant d'être licencié, puisqu'en fait, la Poste a procédé à mon licenciement samedi dernier, et j'ai été notifié par écrit hier. Donc en fait, ça c'est le siège national de la Poste, voilà, à Issy-les-Moulineaux. Et comme la Poste refuse de négocier avec nous sur à la fois la question de ma réintégration à la Poste des Hauts-de-Seine et aussi sur les revendications concernant les emplois, nous avons fait le choix d'occuper le siège de la Poste pour exiger tout simplement que la Poste se mette autour d'une table. Et en fait, la Poste, la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a, comme vous pouvez le constater, ramené plusieurs dizaines de fourgons de CRS, qu'elle a donné comme interlocuteur et mandaté comme délégation des représentants de la préfecture de police de Paris et des Hauts-de-Seine et des huissiers. Donc ça, c'est le dialogue. Lorsqu'on parle tellement du statut des cheminots, qu'est-ce que ça veut dire passer en société anonyme? Nous, ça fait un peu moins de 10 ans qu'on est passé en société anonyme. Et ça, ça veut dire aujourd'hui avoir des pratiques qui sont des pratiques managériales, en fait extrêmement dures, qui sont tirées du privé, qui sont tirer en réalité des cadres qui arrivent aujourd'hui. Le DRH par exemple de la Poste, il vient de Casino. Le directeur national du courrier à la Poste, il vient de PSA. Ils essaient d'implanter ces méthodes-là avec ce que ça veut dire comme broyage de vie humaine. Aujourd'hui, depuis la libéralisation de la Poste, c'est 100 000 emplois qui ont été supprimés en 10 ans. Par exemple là, licencié pour des faits de grève, contre l'avis des services de l'inspection du travail et du ministère, ça m'arrive à moi, un secrétaire départemental d'un syndicat qui est le syndicat majoritaire des Hauts-de-Seine, ce sont des méthodes qui sont des méthodes d'un autre âge. Donc bien évidemment, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de la résistance, qu'il y a de la grève et qu'on ne va pas s'avouer battu. En fait, la Poste a cru qu'en me licenciant, elle allait obtenir gain de cause. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'il y a plein de colères qui se sont exprimées, qui aujourd'hui s'organisent sur ce qu'on vit au quotidien. Il y a une grève comme jamais connue sur le département des Hauts-de-Seine, où il y a 6 établissements qui sont en grève majoritaire, quasiment 300 postiers et postières du département qui sont en grève, et la Poste, depuis le 26 mars, refuse de nous recevoir. Je suis collecteur, c'est-à-dire je collecte les entreprises avec un véhicule jaune. Les conditions, elles se dégradent, puisqu'en fait, comme on supprime des emplois, ce qui se passe, c'est que la charge, elle augmente sur nous. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une somme de paquets en plus à transporter. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des tournées, c'est-à-dire les quartiers qui sont distribués ou les entreprises qui sont collectées, qui ne sont pas faites par le même facteur ou factrice. Ça peut être fait par des intérimaires, donc la qualité de service est aujourd'hui moindre. Ils savent qu'on a des salaires de misère. Ils savent qu'on gagne 1300, 1400 euros. Moi, j'ai 15 ans de boîte et je suis à 1400 euros net. Voilà, maintenant je suis licencié, donc j'aurais même pas de paye. Bon, il faut savoir que mon licenciement, pour faute lourde, ça veut dire après 15 ans de boîte, pas d'indemnité de licenciement et pas de préavis. C'est que là, depuis que j'ai été notifié, j'attends pour pouvoir m'inscrire au chômage. Bon, avec mon CV, quelle est l'entreprise qui va vouloir m'embaucher? Donc ça, ce sont des choses qui sont inacceptables. Lorsqu'on voit par ailleurs des déclarations de notre PDG, Philippe Val, hein, à Challenge, qui dit qu'il sait pas s'il a 1 ou 2 millions placés. Bon, le gars, il sait pas si c'est 1 ou 2 millions qu'il a placé sur son compte en banque. Moi, je sais pas quand je suis devant la machine à café si c'est 10 ou 15 centimes que j'ai dans ma poche. Donc on vit dans deux mondes différents. Vous savez, au-dessus là, ça commence à moins rigoler. Il disait qu'il sentait pas la colère, Macron. Mais il la sent, il la sent. Ce qu'il veut pas, c'est que ça se coordonne. Mais ça va le faire. Il y a les secteurs cheminots, j'ai vu l'énergie, j'ai vu les étudiants, j'ai vu Géodis. Et tout ça fera que, au bout d'un moment, eh bien, à force de pressurer, la cocotte, elle explose.
Ici, on est à l'université Paris-Tolbiac. Il y a une AG qui va démarrer dans quelques instants. Les étudiants se mobilisent contre la sélection à l'entrée de l'université.
Excusez-moi, vous n'allez pas en AG ?
Non, pas du tout, parce que je dois aller bosser, mais franchement, je suis avec eux.
Si on avait pu y aller,
ouais, on serait allé directement, ça c'est sûr.
Je dois aller bosser,
c'est sûr.
Pourquoi ? Je peux vous demander pourquoi vous êtes contre la sélection ?
Quand moi j'entends sélection, je vois tout de suite Paris et leur arrondissement. Moi, je viens du 18e, j'ai un nom d'arabe, j'ai une tête d'arabe aussi, hein, une grosse tête d'arabe, il hein, faut dire la vérité. Donc, à côté, bah, on a une petite, excusez-moi du terme, gauloise qui arrive. C'est elle qui sera prise et non moi.
Ils font quoi vos parents à vous ?
Bah écoutez, moi, mon père, il est conseiller en réinsertion. Et bah, ma mère travaille, enfin elle est caissière.
Je trouve que c'est, pour moi personnellement, je viens du 93 et dès que je suis arrivée au Panthéon, pour moi c'est le savoir ultime, c'est le prestige ultime. Pour moi, depuis petite, c'était mon rêve, je suis très passionnée par tout ça. Pour moi, le savoir, c'est le plus important dans ma vie. Dès que je suis arrivée au Panthéon, mes yeux clairement ils brillaient. Et je suis arrivée, je me suis clairement sentie chez moi. J'ai vraiment eu aucune. Pourtant, je suis voilée. J'aurais pu penser à avoir une petite appréhension, mais pas du tout. Je suis directement arrivée. On m'a tellement bien accueillie. Bonjour mademoiselle. C'était en fait, on voit. Moi, je trouve genre que tout ce qui est savoir, ça vraiment, ça change toutes les mentalités. On voit les gens, ils sont très cultivés, ils sont très passionnés, ils ont en fait tellement de savoir en eux qu'ils n'ont aucun préjugé, ils savent que la base, ça va être le savoir. Je suis allée au Panthéon, c'était tellement beau, tellement magnifique, ils m'ont dit, allez, tout ce qui est bibliothèque, elles étaient ouvertes, tenez, empruntez un livre, faites ça. En fait, ils veulent engrainer en quelque sorte le savoir et dire, allez-y, apprenez.
Moi, j'aimerais dire aussi que, moi, je viens du 93, ma fac de secteur, c'est Villetaneuse, c'est Paris 8 à Saint-Denis. Moi, je sais très bien que si j'avais été affectée à Villetaneuse, je ne serais jamais allée, je n'aurais jamais eu ma licence. C'est parce que je sais que, malheureusement, on ne donne pas les mêmes moyens à cette fac, autant que Panthéon-Sorbonne, autant que Assas, autant que Descartes, autant que toutes ces facs-là. Ça se voit, on va pas se mentir, ça se voit aux élèves qui sont dedans. Et justement, avec la sélection, il y aura moins de mixité, je pense, il y aura beaucoup moins de mélange, parce que en fait, on va caser les gens directement dans leur secteur, on va les laisser. En fait, moi, je trouve que la fac, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup de mixité, ça nous permet d'ouvrir les yeux, ça nous permet même à des gens qui viennent de banlieue ou des gens qui viennent de Paris, ça nous permet de voir, en fait, nous ouvrir surtout. Et le problème, c'est que si on reste tous dans notre secteur, on s'ouvrira jamais et on pourra jamais se mélanger, on pourra jamais apprendre de nouvelles choses. Moi, je sais très bien que si j'étais dans le système de Parcoursup, je serais pas allée à Paris. Ça, c'est impossible. Et justement, c'est quand je vois des réformes comme ça, c'est quand je vois des mouvements comme ça que ça me donne envie encore plus de réussir, de m'impliquer. Il n'y a rien qu'à nous voir, nous. Par exemple, regardez, Tolbiac est bloqué, mais la SNCF, il y a les grèves à la SNCF, etc. Il n'y a pas une réelle mobilisation de la part de toute la société. C'est-à-dire que les gens regardent leur propre intérêt. Ça veut dire que moi, je sais que ça me pénalise, les grèves de la SNCF. Je sais que, c'est relou, un RER sur 5, etc. Franchement, c'est fatigant.
Et vous êtes solidaire, du coup, des cheminots ?
Totalement. Totalement. Je suis totalement solidaire. Parce que c'est le même combat finalement en fait. Je pense qu'on devrait plus se mettre à la place des autres et voilà, comprendre quels sont les enjeux derrière. C'est peut-être notre avenir et l'avenir de nos enfants qui est en jeu aussi. Enfin, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte des répercussions en fait que ça peut avoir dans le futur. Du coup, c'est ça qui me désole et c'est pour ça que je suis totalement solidaire, même si mon centre commence petit à petit à être bloqué, je suis totalement solidaire de ce qui se fait ici, ça c'est sûr et certain. France Culture, les pieds sur terre.
Grève générale. Alors là, on est à Issy-les-Moulineaux devant le siège de la Poste, où les copains postiers ont accompagné Gaël pour exiger effectivement sa réintégration. Ça nous paraissait évident, nous, électriciens et gaziers, de venir, qui sommes un autre service public et nous, qui nous battons pour la renationalisation de nos entreprises. Bah, ça nous paraît naturel de venir soutenir un camarade qui lutte pour le bien collectif et pour la réappropriation de la Poste pour les usagers et par les usagers. L'ouverture du capital chez nous s'est faite en 2004. Depuis 2004, c'est 70% d'augmentation du prix du gaz pour tous les Français, 30% d'augmentation du prix de l'électricité pour tous les Français, 11 millions de familles en situation de précarité énergétique. Et donc la concurrence, au-delà de la casse des services publics, ça n'apporte absolument pas une plus-value pour le public. Et là, vous avez des gaziers. Le réseau gaz aujourd'hui, il est pourri. Et nos collègues et les usagers prennent des risques énormes sur ce réseau-là, donc c'est naturel qu'on aille se battre et qu'effectivement les citoyens comme Gaël qui font valoir le bien public dans une entreprise, et ben, eux ils sont à la poste et c'est les directions qui devraient être virées aujourd'hui. Quoi. Voilà. Moi j'ai 42 ans aujourd'hui, moi j'ai été embauché le 2 mai 2000, donc là on est en 2018, je vais avoir 18 ans de boîte. Et bah voilà, j'ai connu malheureusement toute la casse de l'entreprise. Je suis rentré dans une entreprise nationalisée publique et aujourd'hui je suis un agent d'une société anonyme, Engie, qui est un groupe international et qui utilise l'énergie pour faire du pognon effectivement sur le dos des usagers et contre l'intérêt général dans ce pays. On a eu des réductions massives d'effectifs, hein, c'est-à-dire des milliers d'emplois de supprimés, que ce soit à EDF, à Engie, enfin ex-Gaz de France qui est devenu Engie. Des sommes phénoménales, notamment les 10 dernières années, 66 milliards qui ont été reversés aux actionnaires. Ces 66 milliards-là, avant, quand on était entreprise publique, c'était de l'argent qui était investi dans le réseau, dans le renouvellement du réseau. Et aujourd'hui, effectivement, tout cet argent-là, bah, il est pris par l'actionnariat et on est sur des logiques de rentabilité. Donc, bah, des exemples concrets. Depuis cette année, là, ils ont annoncé la fermeture définitive de tous les accueils physiques EDF. Gaz de France, enfin, Engie n'en avait déjà plus. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle de proximité de services publics, eh ben, dans un an, il n'y aura plus aucun accueil physique pour l'électricité et le gaz sur le territoire français. Là, à l'heure où je vous parle, ça va être l'ouverture de la chasse aux pauvres dans nos entreprises puisqu'on va envoyer nos collègues massivement aller couper les plus démunis, les classes ouvrières, les chômeurs dans les quartiers. Et donc voilà, c'est aujourd'hui une conséquence. Tout ce que je vous explique là, c'est des conséquences concrètes. Le quotidien, c'est effectivement des charges de travail de plus en plus importantes. La volonté des directions de faire sortir les organisations syndicales aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que la volonté, c'est de dire aujourd'hui à un travailleur, il amène ses deux bras, ses deux jambes et sa tête et sa citoyenneté, sa façon de voir les choses, il la laisse à l'entrée de l'entreprise. Et notamment les ordonnances Macron et la mise en place du CSE dans 1 ou 2 ans, ça va consister à éradiquer la présence syndicale en entreprise. À titre personnel, moi j'ai déjà été sanctionné 4 fois. Donc je suis rentré dans l'entreprise avec un casier judiciaire vierge. Et actuellement, après 18 ans d'entreprise, je suis inscrit comme un voyou sur mon casier judiciaire. J'ai des condamnations. Dès que vous allez collectivement sur un lieu de travail, on vous dit que vous séquestrez, on vous dit que vous insultez, on vous dit que vous cassez. Donc effectivement, c'est une pression qui est très accrue sur les militants syndicaux. Et parallèlement avec des réductions massives d'emplois, des dégradations, des harcèlements sur les populations et les salariés. Voilà. Donc c'est les conséquences concrètes de la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz, tant pour les usagers que pour les salariés. Et c'est très important de dire aujourd'hui que dans un service public, il n'y a pas de service public de haut niveau sans un statut de haut niveau, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, un pauvre qui peut quand même, enfin c'est de plus en plus compliqué, mais dans l'absolu, un service public qui pourrait le soigner, le chauffer, avoir son courrier, prendre un train, c'est des biens essentiels. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on va tout faire. On sent en tout cas dans la tête des collègues quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 10 ou 15 ans, 20 ans. J'allais dire, il y aura un avant et un après printemps 2018. En bien ou en mal, mais il y aura un avant et un après.
Alors on est près du ministère de l'Éducation nationale. On est venu en tant que professeur de sciences économiques et sociales. Et voilà.
Qu'est-ce que vous enseignez ?
Moi, alors j'enseigne à Quimper. Et donc on est ici pour défendre la matière. Et le ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la réforme du lycée, est en train de réduire cet enseignement à un enseignement économique, qui serait de plus en plus prescriptif. Par exemple, quels sont les bienfaits de l'épargne, comment la flexibilité peut contribuer à augmenter ou à réduire le chômage. Bon, faire comme si la réponse était toute trouvée, alors que nous considérons...
Et positive.
Et positive, bien sûr. Voilà, c'est dans l'air du temps idéologique. Et considérer que la réponse à ça est évidente, de la part de ceux qui conçoivent les programmes, nous considérons qu'il y a une dérive dangereuse. On veut faire de nous des agents de la circulation des idées, mais au bénéfice d'intérêts privés et au bénéfice du capital. Mais là où je me sens quand même profondément atteint, c'est dans le fait d'avoir un peu sous-estimé ce qui est en train de nous tomber dessus. C'est une colère en tant que salarié du secteur public, hein, puisque y a l'aspect contenu, etc. Mais je pense aussi que nos statuts vont être remis en question. Hein, et ça concerne les enseignants en général. Et là, on est en train de créer une insécurité permanente. Et je pense que cette insécurité rejaillit sur énormément de catégories. On discutait avec des cheminots sur un plan syndical il y a quelques jours. On est tombé d'accord pour dire, mais il y a des gens qui ne sont pas très contents de ce qui se passe, qui n'apprécient pas les mouvements sociaux, qui ne s'associent pas au rassemblement. Mais on est dans une période où on peut leur dire, écoute, peut-être tu n'es pas d'accord avec ce qu'on fait. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on fait, de toute façon, dans 15 jours, 3 semaines ou un mois, c'est toi qui seras concerné.
Hé, patron, prends ça dans ta trompe.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Les Manifs, un reportage d'Émilie Chaudet et Rémi Douatte, réalisé par Philippe Baudouin et diffusé à l'occasion d'une journée spéciale sur France Culture à l'heure des réformes et des mobilisations. Que signifie le service public ? Une journée qui se poursuit avec notamment à 18h20 le grain à moudre d'Hervé Gardette qui se posera la question de savoir si le monde associatif est devenu le supplétif du service public. Public. Merci à tous, notamment à Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Céline Autin, notre stagiaire.
Là comme ça, demain, on fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Entendez les galériens, on prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous n'êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille. Un truc qui nous rabaisse. Un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner. Comme ça, gratos, ça va vous faire brûler.